Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 heures notre seconde qui démarre sur les chapeaux de roue et puis qui par conséquent vous rappelle ou vous apprend parce que c'est la tradition et qu'on n'y coupe pas à la tradition que 24 heures notre seconde est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent. Et si je suis tout frétillant ce jour, eh bien c'est aussi parce que nous allons évoquer une belle italienne comme je les adore, aux yeux de biche et à la chevelure brune, la dénommée Gina Lollo Brigida, une grande dame aussi, actrice et photographe, née le 4 juillet 1927 à Subiaco, je ne sais pas où c'est, et qui nous a quittés, hélas, le 16 janvier 2023 dans la belle ville de Rome. De son vrai nom, Luigia Lollo Brigida, eh bien, elle est d'origine fort modeste, ses parents sont ouvriers, elle quitte sa province, donc on sait que Subiaco c'est en province, pour venir à Rome, où elle devient étudiante à l'Académie des Beaux-Arts. Heureux étudiants qui ont pu côtoyer Luigia à l'époque. Ensuite, eh bien, elle commence petit à petit au théâtre. Eh bien oui, à partir de 1945, donc si je calcule bien, elle n'a que 18 ans, toute fraîche, toute jeune, dans une comédie, dans un petit théâtre qui se trouve être le plus petit théâtre à l'italienne du monde. Vous voyez, théâtre à l'italienne, comment c'est fait? Ben, c'est le plus petit du monde. Ben, c'est un peu normal en même temps qu'il soit en Italie. De là, elle passe à un genre et aujourd'hui bien oublié, je ne sais même pas s'il en existe encore, mais qui dans les années 50 et 60 était fort répandu, qui est le roman photo, c'est-à-dire raconter avec des photographies une histoire. Je t'aime André, mes parents ne sont pas d'accord. Oui André, mais nous allons partir. Oui, mais la voiture a une panne d'essence. Voilà, ce genre de choses, eh bien Gina, il fallait bien commencer, elle commence. On verra une belle caricature du roman photo dans le chèque blanc de Federico Fellini avec Alberto Sordi, qui était une petite merveille de méchanceté, mais de rire aussi. Ensuite, eh bien, elle participe aussi à des concours de beauté. Ça aussi, ça fait partie des grands classiques du genre. Mais dans les années 50, sans être désagréable avec Miss France et autres, de nos jours, dans les années 50, eh bien, il arrivait que les concours de beauté récompensent de vraies vedettes, puisque cette année-là, Gina termine deuxième seulement du concours de Miss Rome. Il faut dire que la première était Lucia Bosé, qui sera une actrice aussi, qui deviendra actrice, notamment dans les films d'Antonioni, excusez du peu, une magnifique personne, et que la troisième, juste derrière Gina, eh bien, c'était Gianna Maria Canale, qui elle aussi sera une vedette de cinéma. Donc comme quoi on pouvait aussi jouer sur sa plastique, certes, mais aussi avoir suffisamment de talent pour aller sur le grand écran. Et c'était évidemment la grande ambition de Gina, qui entre 1947 et 1951 va tourner dans un certain nombre de films où on jouera de sa plastique, mais où elle n'aura qu'un rôle secondaire. Et il faut attendre 1952 et un film français, Cocorico, pour qu'elle rencontre enfin un véritable succès. Le film, il s'appelle Fanfan la Tulipe, il a bercé des générations. Gérard Philippe et Gina en sont les principaux interprètes. On en redira deux mots, mais j'ai déjà été assez bavard sur Gina. On écoute un extrait de sa bande originale, elle est signée de Maurice Thirier et de Georges Van Paris, deux piliers s'il en est de la musique de film à la française. Fanfan la Tulipe, dans 24 notes secondes. Ah ben voilà, c'est bien court, mais on ne pouvait pas s'en passer. Un extrait de la bande originale de Fanfan la Tulipe, un film de Christian Jacques. Je ne sais même pas si je l'avais précisé avant d'écouter ce morceau. Un film de Christian Jacques, vieux routier du cinéma français qui avait débuté dans les années 30, voire au cinéma muet, me semble-t-il. Un film sorti en 1952 et qui mettait en vedette eh bien, l'immortel, maintenant, on peut le dire, c'était pas Val Galvotté, c'est justement Gérard Philippe qui traverse les générations avec toujours le même charisme. L'immortel Gérard Philippe, dans une histoire qui se passait pendant la guerre de 7 ans, dont je ne vous apprends pas qu'elle s'est déroulée entre 1756 et 1763, donc quelque part au milieu du XVIIIe siècle, et Gérard Philippe s'engage dans l'armée, il rencontre la belle Adeline, mais oui, interprétée évidemment par Gina Lollobrigida, et ces deux-là forment un couple charismatique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Rien d'autre, un couple charismatique. À côté, il y a solides second rôles, pardonnez-moi, Noël Roquevert qui joue un maréchal des logis, Fier à bras, tout à fait excellent, Olivier Husneau, Marcel Héran. Bref, c'est un film drôle, d'une époque sans prise de tête et qui rencontra un immense succès à l'époque. En 2003, on en réalisa un remake duquel on pouvait tout craindre, mais il faut reconnaître que Vincent Pérez, qui succédait à Gérard Philippe, et Penélope Cruz, qui succédait à Gina Lollobrigida, eh bien, n'était pas si malvenu, même si en 2003, donc le film date de 2003, ben, c'était plus du tout la même époque, et donc on y avait perdu cette fraîcheur d'âme qui fait tout le prix de Fanfan la Tulipe version 52. Je suis sûr que maintenant ça serait complètement démodé, mais à l'époque ça avait beaucoup marché, pendant des années. C'est le genre de film qu'on voyait très régulièrement à la télévision. Mais je vous parle de films en noir et blanc, donc je vous parle de l'Antiquité, voire de la préhistoire. Ensuite, eh bien, Gina, grâce à ce succès, put enfin sortir de ces rôles où on n'exploitait que sa plastique et où on ne profitait pas de ses réels talents d'actrice, puisqu'elle était vraiment pétillante dans Fanfan la Tulipe. On la vit notamment ensuite dans Les Belles de Nuit de René Clair, tournée en 1952 aussi. On la vit aussi dans quelques films américains, notamment dans Plus fort que le diable de John Huston. Il me semble qu'il y avait Humphrey Bogart là-dedans, mais ce n'était pas très très convaincant. Il faut dire que quand elle alla à Hollywood, elle dut repousser avec insistance les assiduités d'Howard Hughes. Vous savez, ce milliardaire américain que Leonardo DiCaprio a caricaturé dans Aviator de Martin Scorsese, le gars qui essuyait les poignées de porte parce qu'il y avait des microbes dessus. Eh bien, à l'époque, dans les années 50, il s'intéressait encore aux filles. Il faut dire que Gina, mais elle, la belle, dut repousser ses avances et elle fut fort bien puisqu'elle revint en Italie et que c'est en Italie, après Fanfan la Tulipe, qu'elle rencontra à nouveau un succès encore plus colossal, surtout en Italie, avec Pain, Amour et Fantaisie, un film de Luigi Comencini, sorti donc en 1953, dans laquelle on la voyait, alors là encore un couple glamour, même si très différent de son partenariat avec Gérard Philippe, dans laquelle on la voyait en souffre-douleur et en, je dirais, amoureuse façon mégère apprivoisée de Vittorio De Sica, un grand pilier du cinéma italien qui avait débuté sa carrière lui aussi dans les années 30, à la fois comme acteur mais aussi comme réalisateur. Il le fut notamment du Voleur de bicyclette, un film phare du néoréalisme, le mouvement italien qui suivit la catastrophe pour l'Italie de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on a souvent coutume de qualifier Pain, Amour et Fantaisie de néoréalisme rose, c'est-à-dire on y voit des personnages qui sont à la limite du réalisme et de la fantaisie, mais où l'humour et la poésie sont présents. Allez, on écoute un petit extrait de cette bande originale de Pain, Amour et Fantaisie. Elle est signée d'Alessandro Cicconini. J'adore quand c'est italien, dans 24 notes secondes.
Sono la bella Giuseppe, tutta Parigi, il sonno che ho ben pesa della tua vita.
Mais vous l'aurez deviné, c'était la voix décidée de Gina Lollobrigida, notre héroïne du jour, dans un extrait de la bande originale de Pain, Amour et Fantaisie, un film de Luigi Comencini sorti en 1953 et qui connut un tel succès qu'évidemment on fit une et même deux suites. La première, ça s'appelait Pain, Amour et Jalousie, et on y retrouvait Gina Lollobrigida. C'était en 1954, d'après ma petite fille, c'est-à-dire l'année suivante. Et la suivante, eh bien, c'était Pain, Amour, Ainsi soit-il. On était un peu usé la formule. Et passation de pouvoir assez marquante, eh bien, c'était Sophia Loren, encore une belle Italienne, qui succédait à Gina, qui peut-être avait décidé que ça faisait beaucoup de faire trois opus d'une même série, même si celle-ci était à succès, ma foi, elle avait bien raison, et du coup elle enchaîna sur un film, elle tourna d'autres films entre temps, mais on va enchaîner, nous, sur un film de Carol Reed tourné en 1956, un film intitulé Trapèze, qui, comme son nom l'indique, eh bien, se passe justement dans le milieu du cirque, et plus précisément dans les activités des acrobates et trapézistes. On y retrouve dans les principaux rôles, aux côtés de Gina Lollobrigida, bien sûr, Burt Lancaster et Tony Curtis, deux garçons, une fille, donc je vous laisse imaginer quel était le nœud de l'intrigue, si je puis dire. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que Burt Lancaster eh bien, était en terrain connu, puisque l'homme, avant de devenir l'acteur et la star que l'on sait, avait été lui-même trapéziste, et que par conséquent, il connaissait bien le milieu, et que pour une très large part, bon après ça c'est la publicité autour du film, c'est lui qui interpréta les nombreuses scènes d'acrobatie, de même qu'a priori Tony Curtis et Gina Lollobrigida s'y collèrent pour ce qui les concernait, mais Burt Lancaster apportait à la fois au scénario et à la reconstitution donc, de ce milieu du cirque, le tout ayant été tourné au Cirque d'hiver à Paris essentiellement, apportait donc à ce milieu une véracité venant de son histoire et de ses origines que peut-être d'autres interprètes n'auraient pas eu. Il reste que le film de Carol Reed, donc, qui est le fameux réalisateur du Troisième Homme, juste après la Seconde Guerre mondiale, avec Orson Welles dans le rôle principal et une musique personnelle personne n'a oublié d'Anton Karas. Carol Reed avait tourné un film fort classique. On écoute un extrait de sa bande originale. Elle est signée de Malcolm Arnold dans 24 notes secondes. We'll be right back. à la musique de cirque. C'est un genre en soi, donc Malcolm Arnold ne s'écarte pas des canons du genre pour écrire la musique de Trapèze, un film de Carol Reed. 1956, Lancaster Curtis dans les rôles des mâles et Gina Lollobrigida dans le rôle de la fille. Voilà, donc c'est à elle que nous consacrons notre émission de 24 notes secondes de ce jour. Signalons que cette même année 1956, eh bien, on vit Gina Lollobrigida dans un rôle difficile, celui d'Esmeralda, dans le Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy. C'était Anthony Quinn qui était Quasimodo et Alain Cuny qui était Frollo, si je me souviens bien du nom du personnage. Ma foi, l'adaptation était un peu compassée, mais Gina, évidemment, était tout à fait ensorcelante dans le rôle de la belle qui finit par triompher, si l'on veut, de son ennemi, le méchant Alain Cuny. Bouh, qu'il n'est pas beau. On va passer à tout autre chose, à un film de guerre avec de John Sturges, pardonnez-moi, avec Frank, ou qu'il n'est pas beau, qui m'a troublé, avec Frank Sinatra dans le rôle principal, aux côtés donc de Gina Lollobrigida, mais aussi de Peter Lawford, de Steve McQueen. Steve McQueen qui, dans les années 50, eh bien, venait de triompher grâce à la fameuse série télévisée Au nom de la loi, dont les plus âgés comme moi n'ont pas oublié le générique et son fusil à canon court qui nous fascinait forcément. Tous les garçons sont fascinés par les fusils, même à canon court. Et donc, en 1958, eh bien, Steve McQueen se retrouvait au cinéma, où l'on fera la brillante carrière que l'on sait, mais dans un second rôle, aux côtés de Frank Sinatra, pour un film de guerre qui se passe quelque part pendant la Seconde Guerre mondiale, d'après ce qui me semble, où les gentils Américains se battent contre les méchants. Alors les méchants, ils sont japonais. À cette époque-là, ils étaient japonais, les méchants. Voilà, je vous rappelle, ça change souvent avec les Américains. Allez, on arrête l'ironie facile. On écoute un extrait de la bande originale, tout en ayant précisé qu'elle est signée d'Hugo Friedhofer dans 24 notes secondes. Un large extrait de la bande originale de La Proie des Vautours, musique d'Hugo Friedhofer, réalisation de John Sturges. Gina Lollobrigida et Frank Sinatra étaient dans les rôles principaux. Après les années 60, mais il faut reconnaître que la carrière de Gina marqua un peu le pas et que elle, vers 1973, elle s'arrêta presque complètement de tourner pour s'orienter vers une fructueuse carrière de photographe, mais oui, où elle rencontra encore un gros succès. On peut quand même retenir de sa filmographie ultérieure un très beau film de Bolognini en 69, ce merveilleux automne où elle jouait une tante qui initiait un jeune garçon. Tout jeune garçon aurait rêvé d'être initié par Gina Lollobrigida. Et puis aussi, elle fut la fée turquoise, un rôle qui la marqua dans Les Aventures de Pinocchio, tourné en 1972 par Luigi Comencini, avant, comme je l'ai dit, de nous quitter à l'âge de 95 ans quand même, le 16 janvier 2023 à Rome. Et on va se quitter en écoutant un extrait d'un film dont elle était la vedette principale, où elle interprétait le rôle de Pauline Bonaparte, aux côtés de Raymond Pellegrin qui jouait Napoléon Ier, ma foi, le tout était un peu improbable. La direction était de Jean Delannoy. Le film s'appelle Vénus impériale. Ma foi, c'était plutôt bienvenu. La musique, elle est signée d'Angelo Francesco Lavagnino dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, arrivederci, ciao.